Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Samedi 5 octobre dernier, c'était le Salon des Vigneronnes à Piégros-la-Clastre, un événement organisé chaque année par l'association Les Matrones sur le terrain de la Poule à Facettes. Il y avait beaucoup de monde et les 21 exposantes étaient bien sollicitées. Mais j'ai laissé traîner mon micro, l'occasion de quelques rencontres avec ces productrices et artisanes du vin nature. Portrait. Florence, bonjour.
Bonjour.
Présente-toi.
Eh bien, je suis vigneronne depuis 2011, puisque j'ai créé mon domaine avec mon mari en 2011. Et les vignes sont à Saint-Marcel-d'Ardèche et la cave est à Alissas, à côté de Privas.
Pourquoi les vignes ?
Je suis tombée dans les vignes il y a fort longtemps, puisque j'ai fait mes études en agriculture et dans le vin, dans le Bordelais. J'ai fait une école d'ingénieur à Bordeaux et j'ai habité pendant 13 ans ensuite en Bourgogne. Donc entre le vin de Bordeaux et le vin de Bourgogne, mes parents sont de Haute-Savoie, donc le vin haut-savoyard aussi. Je crois que j'ai baigné dans des terroirs de vin pas mal. Et je m'intéresse au vin depuis très longtemps et je crois que c'est venu petit à petit à un moment d'avoir envie de faire ses propres vins. Voilà.
Et raconte-nous du coup la naissance de votre ferme. Vous avez récupéré une exploitation ?
Alors c'est un domaine qui a été monté de toutes pièces. On a récupéré des vignes qui étaient en activité mais qui étaient vendues en raisin. Et on les a convertis en bio et en biodynamie dès le départ. Et on a créé notre propre domaine. Donc on a créé aussi les vins et on a fait les vinifications. Donc il a fallu créer la cave, créer les cuvées et puis ensuite les commercialiser. Donc c'est complètement, là c'est ce qu'on appelle une installation hors cadre familiale. Et il a fallu un certain temps. On est encore un tout jeune domaine parce qu'en vigne, un domaine de 13 ans, c'est encore un bébé domaine. Mais on s'accroche et ça nous plaît beaucoup.
Les vignes étaient vendues en raisin, ça veut dire quoi ?
En fait, la récolte était vendue en raisin à des négociants qui ensuite faisaient le vin. Donc l'ancien propriétaire des vignes n'avait pas du tout de structure de vinification ni de récolte en fait. La récolte et toute la partie vinification était faite ailleurs. Donc quand on a acheté les vignes, on a acheté que les vignes en fait, qu'on a remises en état et qu'on a ensuite choisi de vinifier.
Donc j'imagine que s'ils faisaient pas les récoltes, du coup c'était quoi, des vendanges mécaniques, des trucs comme ça, il a fallu faire un gros boulot
Oui, exactement, c'était des vendanges mécaniques. Il a fallu reprendre les vignes qui étaient taillées, c'est tout. Il y avait beaucoup d'arbres qui poussaient dans la vigne. On avait beaucoup d'agro-restories, mais non maîtrisées, on va dire. Et on a fait tout un travail de remise en état des vignes. Et puis on a démarré dès le départ, parce qu'on avait travaillé pendant 13 ans avant en Bourgogne, dans un domaine qu'on avait converti en bio et en biodynamie. On a choisi de travailler en biodynamie dès le départ, donc de mettre les préparations biodynamiques sur le sol et sur les plantes dès 2011. Et petit à petit, on a vraiment vu les vignes qui reprenaient vie et l'ensemble du vignoble qui se remettait en état. Ça, c'était quelque chose d'absolument assez fantastique. Il y avait à la fois les sols et les vignes qui reprenaient vie en même temps.
Comment vous l'avez vu ?
Le côté intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de vieilles vignes, des vignes de 60 ans, de 50 ans, qui étaient plutôt implantées, qui étaient plutôt encore en plutôt bon état, même s'il y avait des pieds manquants par endroit. Mais le sol, par endroit, ne digérait plus les sarments, c'est-à-dire que les sarments s'accumulaient d'une année sur l'autre, et ça, c'est vraiment un signe de sol qui est en train de mourir, en fait, qui est devenu très inerte. Et on a laissé un peu pousser au départ ce qui poussait, et on a vu le premier printemps une petite légumineuse pousser qui s'appelle laminette et qui faisait un tapis végétal. Et en face de ce tapis végétal, là où on aurait pu dire « Oh là là, il y a de l'herbe qui pousse, ça va faire de la compétition pour la vigne », au contraire, en face de cette petite légumineuse qui poussait, qui percolait le sol avec ses racines, on a vraiment vu la vigne qui reprenait de la vigueur, qui reprenait vie. La chance peut-être qu'on a eue, c'est que l'ancien propriétaire n'avait pas eu le temps ni l'argent de mettre tous les produits qu'il aurait aimé mettre en chimique. Et donc, on a plutôt eu des vignes délaissées que bombardées par la chimie, je dirais. Donc, elles ont peut-être réagi plus vite parce que, justement, elles ont eu un sevrage qui avait déjà eu lieu et elles ont répondu assez vite. Et on a été très étonnés parce qu'on s'était dit, bon, ça bougera en 5 ans. Et en réalité, dès la première année, on a vu les premiers changements. Et on en a parlé à des chercheurs qui sont actuellement en train de faire une étude avec l'INRAE sur les pratiques des vignerons sur la vallée du Rhône et dans toute la France, qui nous ont dit qu'en réalité, au niveau du sol, les interactions se mettaient en place au bout de quelques semaines et qu'il y avait vraiment des changements qui s'opéraient en quelques semaines, qu'on ne voyait pas tout de suite dans le sol. Mais voilà, nous, on a été très surpris par la vitesse à laquelle ça a été. Et petit à petit, les vignes ont repris de la vigueur, ont repris vie et le sol s'est remis à fonctionner. Et aujourd'hui, on travaille un petit peu le sol sous le rang et on met des engrais verts sur le reste.
Voilà, vous plantez maintenant, vous aussi
maintenant, on plante et un mélange de légumineuses, de céréales et puis d'un ensemble de plantes qui sont cultivées dans la Drôme pour essayer de rester sur des variétés locales et des choses qui correspondent au sol qu'on a et à la région où on est. On sent vraiment qu'il y a un apport au sol et un apport aux vignes, enfin c'est à l'ensemble en fait. Il y a vraiment une interaction qui se fait. Et dans la biodynamie, l'intérêt, c'est de voir la vigne dans son environnement et donc avec ce qui l'entoure. Nous, on a beaucoup de bois, de landes, de coteaux entre nos terrasses qui sont plantées en vigne. Donc, on a beaucoup d'arbres, beaucoup d'espèces différentes. On a des animaux qui passent aussi. Alors, on a beaucoup de sangliers. On aimerait peut-être qu'il en passe un peu moins, mais on a d'autres animaux. On a des copains apiculteurs qui mettent de temps en temps des ruches dans les vignes, ce qui amène aussi encore autre chose. Et c'est toute cette biodiversité qui est intéressante pour le vignoble et en tout cas qui nous correspond. On trouve que ça apporte quelque chose aux vignes et probablement que ça apporte aussi quelque chose au vin à côté.
Et la biodynamie, sans rentrer à fond en détail, parce que c'est quelque chose d'assez rigoureux dans les process, vous utilisez des potions, certains diront. Qu'est-ce que t'en dirais pour vulgariser ça ?
Alors, moi, j'ai une approche assez pragmatique et agronomique de la biodynamie. Certains parleraient de potions. Là, c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de choses comme ça. C'est beaucoup d'observations. Et on apporte au sol essentiellement de la silice de corne et de la bouse de corne préparée. Alors, la bouse de corne, ben, c'est du compost de bouse de vache. Et la silice de corne, c'est du quartz finement broyé qui va en fait renforcer la paroi des végétaux. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. Et ensuite, il y a beaucoup d'actions qui sont plus de l'observation et d'agir plus en préventif qu'en curatif. Et voilà. Donc, pour moi, il y a rien de réellement magique. Certains aimeraient en faire beaucoup plus et voir une approche beaucoup plus ésotérique de la biodynamie. C'est personnellement pas mon approche, en fait. Voilà.
Tu es donc en duo, en couple, avec sur cette aventure. Vous avez chacun des rôles définis dans la ferme ou tout est fait ensemble ?
Non, tout n'est pas fait ensemble. On a des rôles définis, mais en fait, les grandes décisions sont prises ensemble. Et au quotidien, alors Olivier lui a travaillé dès le départ dans la vigne et dans le vin. Il est ingénieur agro et il est œnologue, donc il a bossé en production tout de suite dès 98. Donc il a une approche beaucoup plus technique que ce que moi j'ai, puisque j'ai travaillé en tant que journaliste agricole et en tant que formatrice avant d'être vigneronne. Donc l'approche technique, c'est lui au départ. Je reste son apprenti au niveau technique sur plein de domaines, mais après j'apporte un côté très complémentaire, plus dans l'approche alors administrative, commerciale, technique aussi. Et j'encadre l'équipe de vendanges quand lui est à la cave pendant les vendanges. Donc on est assez complémentaires dans nos actions. Par contre, quand il s'agit de choisir ensemble ce qu'on va faire sur les vignes, ce qu'on va arracher, ce qu'on va replanter, et quels cépages on va replanter, quelles vont être les actions de fond qu'on va mettre en place, là, on réfléchit ensemble et on décide ensemble. Et puis, sur les cuvées, c'est de la même façon. On travaille ensemble, on goûte ensemble, on décide ensemble.
Présente-nous tes cuvées.
Oh, alors, j'en ai emmené 8 uniquement au salon, mais en réalité, j'en ai 16 en tout.
Wow.
Ouais, ça commence à faire beaucoup, c'est vrai. Je crois que c'est une petite déviation qui vient de la Bourgogne. Dès qu'il y a un nouveau terroir ou un nouveau cépage, on a envie de faire une nouvelle cuvée. Donc, j'ai 5 cuvées de rouge sur le salon, 2 cuvées sur plutôt la légèreté et le fruit. Donc, une qui s'appelle le Carafon des Acolytes, la seconde qui s'appelle le Rendez-vous des Acolytes. Et après, j'ai 3 cuvées sur des vignes plus âgées, entre 50 et 70 ans. Un assemblage de 8 cépages qui sont plantés ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique d'avoir des cépages qui sont plantés ensemble.
Lesquels ?
Du Grenache, du Carignan, du Cabernet Sauvignon, de la Syrah. Ça, c'est les plus connus. On a un peu de Cinsault qui est encore connu. Mais après, on a de l'Aramon, du Couston et de l'Aubin. Là, ça reste des cépages beaucoup plus autochtones, on va dire. Et puis, après, j'ai une cuvée de Carignan pur et une cuvée de Grenache pur. Ça, c'est pour les rouges. Et pour les blancs, on a 2 cuvées de Carignan gris, qui est une mutation naturelle d'un cépage noir qui est le Carignan noir. Et il y en a 10 d'hectares en France. On est très heureux d'en avoir un petit peu.
Waouh. Et du coup, vous servez pour les pépiniéristes qui viennent faire des prélèvements ?
Oui, un petit peu pour entendre conservatoire, oui, tout à fait. Et puis, on a une cuvée qui est un peu particulière, puisque c'est un blanc de noir et un noir de blanc. C'est du Grenache noir vinifié en blanc avec un peu de Clairette vinifié en rouge. Donc on a un blanc qui s'appelle Recto Verso, qui est l'inverse de ce qu'on attend habituellement des cépages. Voilà. On essaye de faire des cuvées joyeuses sur le fruit et plutôt sur la légèreté, l'élégance. Alors on surprend parce que parfois on est plus habitué à des vins plus hauts en alcool et plus forts. Là on surprend un peu par notre légèreté, mais ça nous plaît assez. Voilà, c'est vraiment expérimenter de nouvelles façons de travailler et surtout ne jamais oublier de s'amuser avec les cépages pour faire les cuvées.
On termine avec tes éléments de com.
Alors, dans le Diois, vous pouvez nous trouver à plusieurs endroits. À la cave du Bourg à Cré, par exemple. On est aussi à Cré chez Gamme Vert. On est dans plusieurs restaurants de la zone. Et puis, on est aussi, par exemple, à l'épicerie de Beaufort-sur-Jarvan. Donc, voilà, on essaye d'être un peu distribué à plusieurs endroits. On a un site internet qui est un site vitrine qui n'a pas beaucoup bougé depuis des années parce qu'il est bloqué. Mais on a une page Facebook et puis un compte Insta. Et n'hésitez pas à nous suivre. Alors, la plage Facebook, c'est Domaine des Acolles et le compte Insta, c'est Les Acolles. Voilà. Si vous souhaitez venir nous découvrir à la cave, c'est avec grand plaisir. La cave est à côté de Privas, à Lissas. C'est pas très loin d'y, finalement.
Merci, Florence.
Merci beaucoup. Merci de toutes ces questions.
Salut Alexandra.
Salut.
Présente-toi.
Je suis un couteau suisse du vin. Je suis sommelière en semi-reconversion. Je porte un projet de réhabilitation de la viticulture dans un village de montagne. Et donc, pour l'instant, j'achète des raisins en Ardèche, à Florence et Olivier le Riche. Et voilà, je vinifie ces raisins en attendant de... Je suis en train de planter les miens, et voilà.
C'est quoi ce village ?
Ce village, il s'appelle Guillaume. Il est vers les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence. Il est à 850 mètres d'altitude. Ça fait partie de ces villages qui a connu l'exode rural et la fin de l'agriculture avec beaucoup de vignes avant les années 50, puis plus du tout. Et puis, il y a le beau projet, la belle idée de refaire une agriculture pérenne, c'est-à-dire avec des valeurs environnementales et saines et des valeurs de protection du paysage environnant.
C'est ton projet ou c'est celui du village entier ?
Les deux. C'est moi qui le porte, mais bien sûr que ça concerne tout le monde. Ça concerne le village entier. Tout le monde se sent concerné, mais c'est moi qui porte le truc, quoi.
Donc il y a plusieurs autres implantations ?
Oui, il y a d'autres agricultures. Il y a des bergers magnifiques sur Châteauneuf-d'Entrône. Il y a des gens qui font du miel, des très beaux ruchers. Il y a une chèvrerie. Il y a un petit peu d'élevage bovin. Il y a un petit peu d'olive et d'huile d'olive. Ça reste des fermes de petite taille qui travaillent vraiment avec des valeurs très communes. Mais au niveau de viticulture, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Alors, il faut défricher, il faut retrouver les parcelles, il faut enlever les pins sylvestres qui ont poussé dessus parce qu'abandonnés depuis 70 ans. Donc, il faut retrouver les terrains, il faut défricher, il faut réhabiliter, il faut replanter. C'est avec dans des coteaux à 40% de pente. Mais c'est un beau projet qui fait qu'on peut se dire que si on arrive à faire des choses comme ça, eh bien, notre passage sur la planète bleue aura été intéressant et un petit peu constructif. Voilà.
Tu nous as dit sommelière en reconversion, c'est-à-dire que tu travaillais...
Reconversion, parce que la sommellerie, c'est mon métier de cœur et que je continue de toute façon à l'exercer, aussi bien au restaurant gastronomique que dans la formation professionnelle, pour une école, une très belle école de sommellerie qui s'appelle Franck Thomas Formation, qui dispense un diplôme de sommelier caviste niveau bac avec une spécificité, c'est d'approcher la dégustation autrement, avec une valeur plus énergétique en rapport avec le corps, où on parle beaucoup de vin vivant, d'agriculture paysanne et de vin quand il est vraiment vin. Comme on dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui n'est pas de moi, qui parle des vins qui ont la gueule de l'endroit où ils poussent et les tripes de ceux qui les ont faits. Bah, c'est une école de sommellerie nationale, il y a 15 villes en France, qui prône ces valeurs-là. Voilà.
Et comment tu viens à l'œnologie du coup ?
À force de traîner avec tous ces gens qui sont autour de nous là maintenant, à force d'être chez les vignerons et d'y passer du temps, aussi bien de vendanges, de coups de main, de caves, de vinifs, de dégustations, de pioches pour aller aider. Et puis bah, un jour, voilà, on ne s'en rend pas compte, mais on est passé de l'autre côté, quoi. Il y a différents métiers. Moi, je ne suis pas œnologue, je fais... L'œnologie, c'est... un diplôme qui mérite du travail et des études et qui nous a apporté beaucoup de choses en termes de compréhension, mais l'œnologie pure et dure, c'est vraiment le médecin du vin. C'est vraiment la fabrication de vin. Moi, je suis d'un parcours de sommellerie, donc le sommelier, c'est celui qui travaille en restaurant, qui déguste les vins et qui fait les accords mets et vins. Et aujourd'hui, je tends vers plus ce qu'on appelle la notion de vigneron, qui est de mettre, d'exprimer un lieu dans un verre de vin au final, mais sans l'aspect fabrication, volonté d'obtention d'un goût, d'une texture, mais plutôt avec une posture d'écoute où l'homme fait partie d'un lieu, d'un terroir et où il essaye d'être au service de quelque chose pour accompagner au mieux.
C'est pour ça que tu fais du vin nature ?
Eh bien, c'est ça. Je pense qu'il y a une chose importante à dire, c'est qu'en premier lieu, c'est des raisins qui sont... parce que tout part de la vigne et que c'est des raisins qui sont travaillés sans chimie. Donc c'est une vigne qui est au moins bio, en tout cas, ou un bio relativement engagé. Et ensuite, c'est de vinifier sans intrants artificiels et sans méthode qui stérilise ou qui pasteurise le vin. Il est pratiqué de manière assez commune dans le métier, effectivement, avec cette notion à intervenir dans le sens qu'on veut donner et pas de révéler quelque chose de naturel. Souvent, c'est beaucoup des interventions. On nous a appris l'œnologie dans les écoles ces dernières années. On n'attend pas qui est une maladie pour soigner, mais on stérilise tout de suite d'avance. Avec des méthodes diverses et variées, mais qui sont, comme tu le sais bien, pas forcément dans le sens de garder un vin très vivant en termes de microbiotique et d'expression, quoi.
Pour toi, c'est quoi la différence entre un vin nature et un vin industriel ?
On peut aisément comparer ça avec le fromage. Entre un fromage fermier et un caprice des dieux, par exemple. Dans le fromage, c'est évident, tout le monde voit le lien. C'est un lait qui fermente, qui a une microbiotique, qui a des saveurs, etc. Et le caprice des dieux ou le babybel qui sera beaucoup plus lissé, qui ne va pas bouger, complètement stérilisé. On entendrait tout à fait d'un fromager qu'il n'appelle pas le caprice des dieux, ça, qu'il n'appelle pas ça du fromage. Nous, dans le vin, on a eu encore un petit peu du mal à faire la distinction entre ce qu'on appelle une boisson à base de raisins fermentés, mais produite de manière industrielle, aromatisée, texturisée, stérilisée, pasteurisée et vendue avec des goûts et des acidités et acidifiées, et un vin qui serait au vin ce qu'un fromage fermier est au fromage, quoi.
Ça veut dire qu'il faut aussi réhabituer les gens ?
Bien sûr, mais on est tous... Les gens, je me mets complètement, moi, dans les gens. On est tous des enfants de l'industrialisation. On est aux 70 ans de l'industrialisation. On a été bercés par des arômes artificiels, du sucre et tout ce qui s'ensuit. Dans le vin, dans les légumes, dans les plats, dans les sauces, dans le café. Prenez quelqu'un qui a bu pendant 10 ans de la capsule... peut-être qu'un café italien au percolateur, ça va lui faire un petit peu bizarre. Et pourtant, c'est le vrai goût du café. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, il faut. Chacun fait ce qu'il veut, c'est sans jugement. On passe par une phase de redécouverte, parfois d'incompréhension ou de très bonnes surprises. Voilà. Je vois beaucoup de gens émerveillés parce qu'ils retrouvent des goûts qu'ils n'ont plus goûté du tout. Ou des gens qui me disaient « mais j'ai jamais aimé le vin » et un jour j'ai bu ça et je me suis dit « waouh, mais c'est quoi ? Ça fait comment ? C'est quoi ce truc ?» C'est parce que j'ai... Moi, je me rappelle du vieux Bordeaux boisé. Voilà, en ce moment, ils prennent cher, mais... Et voilà, qui redécouvrent des goûts, etc. Mais je pense que c'est un sujet qui touche globalement tous les secteurs de la gastronomie.
Tu nous disais acheter ton raisin ?
Chez Florence et Olivier Leriche au domaine des Acolles. Je le rachète sur pied, je le vendange avec une équipe de copains, de collègues, et je le vinifie dans une partie de leur cave.
Est-ce que tu pourrais déplacer tes raisins qui sont d'Ardèche, puis aller les vinifier dans les Hautes-Alpes ? Est-ce que ça jouerait sur la vinification ?
Ça jouerait beaucoup, je pense, oui, ça jouerait sur le goût du vin, parce que... Quand on parle de vin, on parle beaucoup de géologie, de quand on pense terroir, on pense majoritairement ce qui se passe sous terre, alors que le terroir, c'est 50% de ce qu'il y a au niveau des racines, mais c'est 50% de ce qui se passe au-dessus. C'est aussi une topographie, c'est un paysage, c'est un climat, c'est un environnement. Le vent, la qualité de l'air, s'il y a les montagnes, s'il y a la mer, s'il y a des arbres, s'il n'y en a pas, et l'action de l'homme. Tout ça, ça joue, mais ça joue aussi dans une cave. Une cave, c'est plein de... C'est riche d'une microbiote, de bactéries, de levures. Et chaque terroir a son environnement microbiotique. Et donc, la vinification, c'est un moment où le vin va respirer et il respire son environnement. Et donc, il en est empreint, je pense, oui.
Et tu auras envie de le faire, ça, après, de déplacer, justement
Alors, le jour où on plantera le premier pied de vigne sur Guillaume, je déplacerai, je continuerai à vinifier le raisin de mes premiers amours territoriaux qui sont l'Ardèche, mais là-bas, ouais.
Donc,
ça fera un test et on pourra, avec plaisir, comparer les dégustations des grenaches vinifiées en Ardèche et des grenaches vinifiées en Haute-Montagne.
Tu nous présentes tes cuvées ?
Oui, avec plaisir. Donc... la cuvée principale s'appelle Pot-au-vin. L'idée de Pot-au-vin, c'est que ça fasse penser à un pot-au-feu qui ramène les gens autour d'une table, d'un plat qui nous lie, qu'on partage dans la convivialité, la joie, la simplicité et juste le bonheur de se faire du bien. Et Pot-au-vin, ça peut aussi faire penser à des potes et à du vin, parce que sans eux, je ferais rien. Voilà. Et j'ai à côté des petites cuvées éphémères qui sont un peu des tests. Une année, c'est un pétnat, une autre année, c'est un blanc, une autre année, ça va être autre chose. Mais la cuvée principale, c'est le pot-au-vin, les grenaches rouges.
Où est-ce qu'on te trouve, Alexandra ?
Eh bien, on me trouve au Matron et au Gré du Vent. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas Internet, il n'y a pas... Pour l'instant, il n'y a pas. Voilà.
Ça viendra ?
Ça viendra. Parce que, oui, on fera un petit peu savoir pour ce territoire en renaissance.
On n'a pas parlé de tes étiquettes ?
Mes étiquettes, il y a beaucoup de textes parce que j'aime bien que les gens soient au courant de ce qu'il y a dans la bouteille. Alors voilà. Et pour les dessins, je regrette de ne pas avoir un grand talent de dessinatrice parce que j'ai à cœur d'essayer de mettre un petit peu de moi à travers l'étiquette. Donc je les dessine moi-même. Mais voilà, je fais du mieux que je peux, quoi. Donc c'est pas du grand art.
Et pourtant, tu as des bons retours.
Eh ben, étonnamment, oui. Mes bonhommes bâtons plaisent beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.